Et Sébastien Paour, bonsoir.
Bonsoir à tous. Didier Lombard rejette toute responsabilité dans la vague de suicide à France Télécom. Je n'y peux rien, dit l'ancien patron lors de sa première audition au procès pour harcèlement moral. Il parle d'une crise médiatique et fait vivement réagir la salle. Compte rendu d'audience avec Corinne Audouin dès le début du journal. La petite leçon de François Hollande à Emmanuel Macron sur le rapatriement des enfants de djihadistes retenus en Syrie. L'Elysée est furax, vous verrez. Au sommaire également ce soir, une prise d'otage dans un bar de Blagnac près de Toulouse. Nous y sommes, il y a 4 personnes retenues. La fronde des clubs de foot contre le projet de réforme sur la Ligue des Champions. Le Goncourt du premier roman à Marie Gauthier. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien ce soir, 7 mai 2017, 7 mai 2019, 2 ans de présidence Macron, 1 an 2, surtout particulièrement chaotique, plus rien ne sera comme avant. Ça c'est sans doute vrai, mais à quoi va ressembler l'an 3? Hier, les partenaires sociaux, les élus sont revenus autour de la table. Alors changement de cap, changement de méthode ou pas? Est-ce que cette pente est remontable pour le président? Et comment? Que voudrait dire une place de second aux élections européennes? On en parle ensemble au 01 45 24 7000.
France Inter. C'est le procès de la souffrance au travail qu'il a causé presque à lui seul pour les proches des victimes. Didier Lombard, PDG de France Télécom, pendant cette vague de suicides dans l'entreprise en 2008 et 2009, jugé pour harcèlement moral avec ses anciens numéro 2 et DRH. Lui, qui disait à ses cadres qu'il ferait les 22 000 départs d'une façon ou d'une autre, par la porte ou par la fenêtre, fermez les guillemets, et qui parlait devant les caméras avant de regretter d'une mode des suicides. Il était à la barre aujourd'hui, Didier Lombard. Bonsoir Corinne Audouin.
Bonsoir Sébastien.
10 ans après et pour la première fois, et dès sa première audition, Corinne, eh bien, il est sur le même ton.
Oui, il avait prévu une déclaration liminaire, Didier Lombard, pour bien cadrer son propos. Costume bleu marine, ventre arrondi, la voix assurée malgré ses 77 ans, l'ex-PDG déplie sa feuille. « Je vais la lire pour ne pas dérailler avec l'émotion », dit-il. « Je veux dire à celles et ceux qui ont été mes collègues mon profond chagrin pour ceux qui n'ont pas supporté le changement imposé à l'entreprise. Notre maison était en péril en 2005. Il détaille le surendettement, la concurrence, les évolutions technologiques. Mais en 2009, France Télécom se portait mieux. 10 ans après, Didier Lombard n'évoque ni remords ni regrets, simplement une profonde tristesse. Mais face aux questions de la présidente, le discours préparé se fissure. À propos de la recrudescence des suicides à l'été 2009, il parle de crise médiatique. Une crise qui a déprimé les employés, assure Didier Lombard. Les journaux leur disaient que leur entreprise était lamentable, ça leur a cassé le moral. Il ne parle plus de mode des suicides, c'était très maladroit, reconnaît-il. Mais il embraye, j'ai découvert que ça s'appelait l'effet Werther, le fait de parler des suicides, ça les multiplie.
Et comment réagit la salle, Corinne?
Alors Nathalie Topalov, avocate des parties civiles, s'exclame abasourdie, vous regrettez le mot, mais vous pensez la même chose. Sur les bancs, on entend des soupirs, des ricanements nerveux. Didier Lombard n'est pas troublé, il conteste le terme de crise sociale. Il concède que les transformations imposées à l'entreprise n'ont pas été agréables. C'est comme ça, si je n'avais pas été là, ça aurait été pareil, peut-être pire. Alors le tribunal reviendra plus tard longuement sur les faits, mais l'ex-PDG a dévoilé aujourd'hui sa stratégie de défense en mode droit dans ses bottes.
Merci Corinne Audouin, en direct du Palais de Justice de Paris. Le procès va durer plus de 2 mois.
2 ans donc qu'il est à l'Elysée.
Et pour cet anniversaire, Emmanuel Macron se serait sans doute passé du nouveau cadeau de son prédécesseur. On va y venir dans un instant avec Cyril Graziani, mais d'abord avec vous Sarah Guibaudot. Résumons l'initiative de François Hollande. Aujourd'hui, il recevait des familles d'enfants français retenus en Syrie et il demande leur rapatriement d'urgence.
Oui, les familles se plaignent de ne pas avoir d'interlocuteur au sein du gouvernement. François Hollande les écoute et pose des questions sur les orphelins, notamment, qui n'ont rien à faire là-bas, dit-il. Hervé Liotet espère le retour de sa petite nièce.
Il a survécu au bombardement de Raqqa, elle est ensevelie sous les décombres de la maison et serait dans le camp de Halol.
Elle aura 2 ans au mois d'août.
Les Kurdes ne veulent pas des femmes et des enfants. Ma sœur a encore demandé si elle pouvait envoyer uniquement son fils parce qu'elle ne supporte plus de le voir dans ces conditions. La responsable lui a répondu non, parce que sinon la France ne va jamais vous récupérer et on ne veut pas de vous.
Avec beaucoup de précautions de langage, l'ancien président se prononce pour le rapatriement.
Je suis le président de la République qui a décidé des interventions françaises en Irak et en Syrie contre Daesh. Il y a des Français qui sont partis, hélas, se perdre dans ce combat-là. Ces Françaises ou Françaises doivent être condamnées. Mais pour le reste, les enfants, eux, doivent rentrer.
Les avocats Marie Dosé et Henri Leclerc sont conscients que ce sont les mères qui posent problème. Ils défendent leur retour pour des raisons humanitaires et sécuritaires.
Il y a celles qui veulent rentrer et puis il y a celles qui veulent continuer le combat. Les laisser là-bas, c'est fabriquer du terrorisme. Ce qui va se passer dans les mois qui viennent, c'est l'éparpillement.
Notre justice antiterroriste, elle n'est pas laxiste du tout.
Selon eux, il y a 210 enfants français détenus en Syrie.
Un enfant orphelin n'a rien à faire dans un pays étranger. Merci Sarah Guibaudot. Son retour devrait pouvoir être fait le plus rapidement possible. Voilà le reproche adressé par François Hollande à l'Élysée. Cyril Graziani qui répond et qui ne mâche pas ses mots.
Recevoir les familles de djihadistes pour l'Élysée, c'est une faute, ni plus ni moins. Une faute car un ancien président explique qu'un intime d'Emmanuel Macron ne devrait pas se mêler de cette histoire. Un ex-président ne devrait pas faire ça, quand bien même il aurait gouverné au moment du départ de ces djihadistes. François Hollande a pris position pour le retour des enfants, alors que la France, sur leur rapatriement, avance à petits pas, au cas par cas, comme à la mi-mars. Mais prévient un familier du dossier qui n'a pas non plus été mis dans la confidence, on peut être pour leur retour, mais attention à ne pas starifier ces familles. Une chose est sûre, l'Élysée surveille de près les moindres faits et gestes de François Hollande et les goûte peu. Lorsque l'ex-président s'est rendu à Mossoul, une protection française lui a été assurée, mais ce voyage s'est fait sans l'accord de la présidence de la République au préalable et n'engageait en rien, avait dit Macron, les choix diplomatiques français actuels. Si avec Nicolas Sarkozy, les relations d'Emmanuel Macron sont au beau fixe, avec son prédécesseur, là la rupture est totale.
Emmanuel Macron qui s'inquiète par ailleurs dans un bref message sur Twitter de la situation à Idlib dans le nord-ouest de la Syrie, que l'armée de Bachar el-Assad bombarde sans relâche depuis la semaine dernière. La situation humanitaire est critique et aucune option militaire n'est acceptable, écrit le président de la République. Plus de 150 000 déplacés en une semaine d'après les Nations Unies. Autre bilan après deux ans de présidence Macron, celui que font les personnes handicapées de l'action du gouvernement, bilan qu'il a encore ne va pas faire plaisir à l'exécutif. 9 handicapés sur 10 se disent mécontents des actions en leur faveur dans un sondage Ipsos dévoilé ce matin. Alors que l'association APF France Handicap lance sa caravane du handicap, une semaine itinérante Lisa Guyenne à travers tout le pays pour discuter précisément de ces questions.
Le chiffre est frappant, seuls 2% des concernés se déclarent très satisfaits des actions d'Emmanuel Macron. Alain Rochon, président de l'association APF France Handicap.
Quand le président Macron annonçait que le handicap était un thème majeur de son quinquennat, les gens y ont cru. Et aujourd'hui, deux ans après, quand ils font le constat, on s'est aperçu qu'il y avait un peu, comme dans le tango argentin, un pas en avant et deux pas en arrière.
Comme par exemple avec l'allocation pour adultes handicapés, la secrétaire d'État Sophie Cluzel annonçait hier qu'elle augmenterait en tout de 90 euros sur deux ans. Effet d'annonce, selon Alain Rochon.
90 euros, oui, mais quand on regarde au final, il y a des conditions d'attribution pour ces 90 euros qui excluent à peu près 300 000 bénéficiaires sur un peu plus d'un million.
Et outre l'aspect financier, il y a la question du chômage. 20%, soit deux fois plus que la moyenne chez les valides, mais aussi l'accès aux lieux publics, aux transports, au logement, à l'école. Et chacun de ces problèmes est complémentaire, estime Jean Zetoun, vice-président de l'association APF.
Il y a toute une chaîne d'accessibilité. Si on a la chance d'avoir un emploi, il faut pouvoir se déplacer. Paris, les métros ne sont pas accessibles. Il y a une seule ligne, 9 stations qui sont accessibles.
Autant de problématiques que la caravane du handicap va aborder cette semaine partout en France avant de rejoindre Paris le 14 mai prochain.
La santé, avec cette étude des statisticiens du ministère qui se sont intéressés aux médecins, on découvre qu'une consultation chez le généraliste dure en moyenne 18 minutes et qu'avec 54 heures hebdomadaires, eh bien, ils sont très au-dessus des 35 heures. Mais il y a des disparités, Véronique Julia, notamment selon les générations de médecins.
54 heures de travail hebdomadaire, ça correspond dans le détail à 45 heures à peu près passées auprès du patient, 5 heures consacrées à des tâches administratives, 2 heures à des mises à jour de connaissances et enfin 2 heures dédiées à d'autres activités comme des vacations à l'hôpital. C'est une moyenne, mais la nouvelle génération, sans doute plus hédoniste, travaille moins que ses prédécesseurs, comme en témoigne Margot Bayard. Elle a 55 ans et elle est médecin généraliste dans le sud de la France.
Ma jeune associée qui a 30 ans, qui vient de s'installer, elle a à cœur d'amener son enfant à l'école, de pouvoir le récupérer. Des travails, on va dire, 4 jours par semaine. Elle arrive à 9h, elle repart à 18h.
Vous, à 30 ans, vous travaillez?
Je faisais 70 heures par semaine. Quand j'ai repris le cabinet, mon prédécesseur ouvrait le dimanche matin.
18 minutes par consultation, là encore, c'est une moyenne. On peut ne passer que 5 minutes sur une petite grippe, mais consacrer à l'inverse beaucoup plus de temps à certains patients.
Moi, je fais beaucoup de suivi pédiatrique. Quand vous avez une visite d'un nourrisson, des visites du premier mois, la visite du 9e mois, la visite du 24e mois, ce sont des visites qui prennent entre 30 et 45 minutes. Et après, un patient patient âgé polypathologique, complexe, qui décompense, ça peut vous prendre mais facilement 30 minutes.
Des temps de consultation qui ont tendance à s'allonger à cause du vieillissement de la population et de l'augmentation des maladies chroniques. Globalement, les généralistes ont pu prendre en 2017 un peu plus de 6 semaines de congé. 60% estiment que leur temps de travail s'accorde plutôt bien à leur vie privée.
Je vous le disais en titre, une prise d'otage est donc en cours depuis 2h30 à Blagnac, près de Toulouse. Vous êtes sur place. Bonsoir Magali Lacombe.
Bonsoir.
Un homme retient plusieurs personnes, 4 personnes dans un bar du centre-ville, c'est ça ?
Oui, effectivement, et d'après les premiers témoignages, il s'agirait d'un jeune de 17 ans qui aurait voulu braquer ce bureau de tabac presse aux alentours de 16 heures. Le rideau de ce PMU est baissé, c'est lui qui l'a demandé un peu plus tôt cet après-midi. Les policiers, eux, sont positionnés à proximité. On voit d'où on se trouve, à 300 mètres de ce bureau de tabac presse, une poignée d'agents de la brigade anticriminalité. Les policiers qui ont évacué les salariés à proximité, les habitants, eux, sont invités à rester confinés chez eux. On n'a pour autant pas entendu de coup de feu pour le moment, mais on sait qu'il va se passer quelque chose, on le sent. Les hommes du raid sont sur place, eux aussi. Ce jeune homme, donc, s'il s'agit bien de cet adolescent de 17 ans, est entré vers 16h dans l'établissement. Il retient toujours 4 personnes en otage et tout le quartier est bouclé.
Magali Lacombe pour ses précisions, merci. Depuis le centre-ville de Blagnac, Philippe Martinez réclame une enquête publique sur les violences du 1er mai contre le cortège syndical à Paris. Les gaz lacrymogènes utilisés contre sa centrale, véritable attaque selon le patron de la CGT, il a écrit au ministre de l'Intérieur. Christophe Castaner qui a été interpellé sur les violences policières cet après-midi à l'Assemblée par l'insoumis Éric Coquerel, que voici, puis la réponse du ministre.
La 5e République sera jamais entachée de son terrible bilan. Un mort, plus de 2200 blessés, 28 mutilés à vue, 8700 gardes à vue et aussi de nombreux policiers blessés lors du mouvement des Gilets jaunes. Ce bilan, chers collègues, n'est pas celui d'une démocratie, c'est celui d'un régime autoritaire qui, le 1er mai, charge, nasse et noie sous les gaz des cortèges syndicaux et pacifiques. Vous récidivez en parlant d'intrusion violente. Monsieur Castaner est devenu un obstacle à la paix publique. Monsieur le Premier ministre, je vous le demande solennellement, mettez fin aux fonctions
de l'Intérieur.
La réalité, je m'en suis expliqué, mes regrets d'un mot mal choisi. Mais la réalité, c'est quoi ? C'est le souvenir que j'ai du 1er mai 2017 avec ce policier immolé. C'est le souvenir des violences depuis décembre que vous voulez, monsieur le député, oublier. Il faut savoir aussi avoir l'humilité de reconnaître qu'un mot peut être mal utilisé. J'ai d'ailleurs en tête ceux de Jean-Luc Mélenchon qui avait reconnu que le mot « assassinat » était, je le cite, mal calibré à propos des liens entre Bernard Cazeneuve et la mort de Révisès. Alors je vous le dis, monsieur le député, savoir reconnaître une erreur, notamment sémantique, c'est l'honneur d'un homme politique.
Échange compilé par Laurence Perron. La politique encore à 3 semaines des européennes avec les Britanniques qui vont bien y participer. Même si les députés adoptent d'ici là un accord de Brexit, le scrutin se tiendra outre-Manche le 23 mai.
Édouard Philippe fait le bilan des mesures d'urgence.
Annoncé en décembre par Emmanuel Macron pour répondre à la colère des Gilets jaunes, le Premier ministre assure que le pouvoir d'achat par habitant va progresser de plus de 2% cette année. Ce sera d'après lui la plus forte augmentation depuis 12 ans. À la page éco encore, l'arrêt programmé d'une partie de la production de sucre en France. Les cours sont en forte baisse. Le groupe allemand qui possède Saint-Louis Sucre veut fermer 2 sites dans l'Hexagone. 130 postes seraient supprimés. Alors les betteraviers veulent racheter ces 2 sites. Ils étaient 200 avec des salariés de Saint-Louis cet après-midi devant l'ambassade d'Allemagne à Paris. Faustine Calmel.
Sudzucker, ce sont 4 usines en France. En fermer 2, c'est mettre en péril des milliers d'agriculteurs qui y vendent chaque année leurs betteraves. Et pour Patrick Deschauffour de la Confédération Générale des Planteurs de Betteraves, c'est la compétitivité française qui est clairement visée.
Dans la proposition de baisse de production de sucre, 700 000 tonnes sur l'ensemble du groupe, c'est la France qui paie le prix fort, avec 500 000 tonnes à elle seule qui va baisser de production.
Sudzucker propose de conserver les sites, mais à minima pour y faire du stockage de sirop de sucre. Les Français dénoncent un moyen de contourner la loi Florange qui oblige à chercher un repreneur en cas de fermeture d'usine. Méthode destructrice au sein même de l'Union européenne, déplore Dominique Fievé. Le représentant des betteraviers dans la Somme en appelle à une autre Europe.
C'est tout, je dirais, un environnement économique qui, demain, peut disparaître par une décision unilatérale d'un groupe qui, encore une fois, ne voit que ses intérêts financiers plutôt que l'intérêt d'une Europe que l'on veut, nous, plus équitable, plus constructive. Nous sommes pour une Europe, mais pas n'importe quelle Europe.
À 20 jours des élections européennes, la Confédération des planteurs de betteraves espère désormais le soutien du gouvernement français. Elle va présenter la semaine prochaine à Südzucker un plan de reprise sous forme de coopérative.
Ils n'ont pas encore de prénom pour leur fils et ils ont déjà un autre problème à gérer. Le fisc américain s'intéresse de près à la fortune de l'enfant du prince Harry et de son épouse Meghan parce que le bébé a aussi la nationalité américaine. Vous savez ça par cœur, Fabienne. Voilà qui devrait permettre au service des impôts des États-Unis d'accéder à pas mal d'infos sur la richesse du couple, Gregory Phillips, et de la famille royale britannique.
Le royal baby a la double nationalité, britannique bien sûr, mais aussi américaine par sa mère. Et comme tout citoyen des États-Unis, quel que soit son lieu de naissance ou de résidence, il devra rendre des comptes à l'IRS, l'administration fiscale de ce côté-ci de l'Atlantique. Si Harry et Meghan, par exemple, décident d'ouvrir un compte en banque à leur enfant, eh bien il devra être déclaré à l'IRS. Si la reine offre au bébé un cadeau d'une valeur supérieure à 100 000 dollars, même chose. Enfin, Meghan, devenue duchesse, va devoir aussi déclarer au fisc américain sa fortune. La maison du couple à Windsor, le diamant offert par le prince pour leur fiançailles ou encore la bague offerte par la reine pour leur mariage. Indirectement, le fisc américain aura donc accès à une partie des comptes de la monarchie britannique. Seule solution pour éviter cela, que Meghan renonce à sa nationalité américaine. Même chose pour l'enfant, mais qui de toute façon sera soumis à ses règles jusqu'à son 18e anniversaire. Washington, Gregory Phillips, France Inter.
La Ligue des champions de football sera-t-elle une compétition réservée aux grands clubs européens?
Eh bien, c'est ce que redoutent plusieurs dizaines de ces clubs avec le projet de réforme sur lequel travaille l'UEFA pour 2024. Projet qui permettrait aux 24 meilleures équipes d'être directement qualifiées pour l'année suivante. Plus de 200 clubs de toute l'Europe, dont des Français, mais pas le PSG, étaient réunis aujourd'hui à Madrid pour organiser la riposte. Ils réclament, Mathieu de Taillac, d'être consultés et de pouvoir négocier avec l'instance du foot européen.
L'ambiance était électrique, entre d'un côté les quelques clubs favorables à la réforme, le premier d'entre eux, le président de la Juventus de Turin, André Agnelli, il n'a parlé qu'une minute, mais selon un représentant des supporters présents à la réunion, il a été très agressif, a même accusé d'alcoolisme les interlocuteurs qui n'étaient pas d'accord avec lui, et en face donc la masse des clubs qui risquent de perdre gros dans l'affaire, moins 45% de recettes, selon les calculs d'une étude commandée par la Liga espagnole. Que peuvent-ils faire, ces clubs? Javier Tebas, président de la Liga.
Il a trois outils. L'ego d'abord. À la Liga, nous défendons que la création de ce type de compétition viole les lois sur la concurrence. Il y a des outils politiques. Le traité de l'Union européenne reconnaît une spécificité au sport. Et il faut voir si les autorités de chaque pays peuvent se saisir de cette question. Je sais que l'Italie et la France travaillent là-dessus. Et puis, les grands clubs eux-mêmes doivent être conscients que plus de 1000 clubs ne sont pas d'accord avec cette réforme. Je pense que ça doit les faire réfléchir.
Pour le moment, les clubs doivent convaincre l'UEFA. Une réunion est prévue demain à Nyon. Madrid, Mathieu de Taillac, France Inter.
On termine avec trois prix Goncourt. Goncourt de la nouvelle, de la poésie et du premier roman. Premier roman qui distingue Marie Gauthier, Ilana Mor-Youssef pour Cour vêtue.
Ils ont l'art d'être à la fois dans l'air du temps et à rebrousse-poil, les académiciens Goncourt. À rebours du puritanisme de l'époque, ils récompensent le premier roman de Marie Gauthier, Cour vêtue, une célébration du corps et du désir adolescent, comme l'a souligné Philippe Claudel.
C'est un roman bref, c'est un roman tenu. Vous nous présentez une héroïne qui n'est que corps, quelque part, qui met en avant sa sensualité, sa sexualité, son désir d'homme.
Il me semblait que c'était à l'adolescence que peut-être le désir était le plus fort chez les filles et chez les garçons. Et j'avais envie de capter cette chose-là, cet élan de vie.
Avec le Goncourt de la nouvelle, les jurés ont été sensibles à l'une des grandes menaces qui nous guettent. Nous sommes à la lisière, neuf nouvelles de Caroline Lamarche, célébrée par Didier Decoin.
Votre livre, chère Caroline Lamarche, c'est celui que j'attendais sur la relation entre l'humain et l'animal. Tout le monde le sait, la biodiversité est en grand péril. Une espèce animale ou végétale s'éteint toutes les 20 minutes. Sur le fil du rasoir de cet apocalypse, subsiste, résiste, humblement mais superbement racontée par Caroline Lamarche, les histoires d'amour des gens et des bêtes.
Et un dernier mot pour le Goncourt de la poésie, il est attribué à Yvon Le Maine pour l'ensemble de son œuvre.
Et un poème de moi, sans doute mon plus beau poème d'amour parce que je ne suis pas dedans. Ils se sont tellement aimés que la mort recula d'une heure pour les laisser passer.
Yvon Le Maine, qu'on peut aller écouter le 20 mai à la Maison de la Poésie à Paris.
Voilà, et puis sinon j'espère... Pardon ?
Jolie, je disais.
Oui, c'est très joli, la poésie. la musique aussi. Moi, j'espère que Milan, vous allez voir le lien, aura les Jeux Olympiques d'hiver en 2026. Parce que, si c'est le cas, le comité olympique italien promet qu'Ennio Morricone composera l'hymne de ces JO. Réponse le 24 juin. Faut quand même pas traîner. Morricone a 90 ans.
Okay, merci beaucoup, Sébastien Peur, pour le journal. On se retrouve demain, même heure, même endroit. On reste ensemble, nous, évidemment, pour le téléphone sonne. Et merci beaucoup de passer cette soirée avec nous.